Vous écoutez RFI, il est 18h30 en temps universel, 19h30 ici à Paris, 20h30 à Goma.
Afrique Soir sur RFI.
Et c'est l'heure de retrouver toute l'actualité sur le continent pendant 30 minutes. La première édition d'Afrique Soir vous est présentée par Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous. À la une, l'inhumation d'une centaine de corps à Goma dans l'est de la République démocratique du Congo, corps des personnes tuées dans les affrontements de la semaine dernière, affrontements entre l'armée appuyée par ses alliés et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda dans la capitale de la province du Nord Kivu. À la une également, l'attaque djihadiste contre Dibo, localité de la province du Soum au Burkina Faso. Des djihadistes ont pris pour cible des positions de l'armée, attaque revendiquée par le GNIL, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Et puis en Guinée, la candidature du général Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle se précise. Il ne s'est pas officiellement prononcé sur la question, mais ce week-end, lors d'un meeting à la gloire du président de la transition, les appels à son maintien au pouvoir se sont multipliés. L'inquiétude des organisations humanitaires après le gel de l'aide internationale américaine. Le nouvel hôte de la Maison Blanche a décidé de stopper pour 90 jours l'aide internationale américaine, mesure qui a déjà des conséquences concrètes et tragiques. Au moins une centaine de corps ont donc été inhumés aujourd'hui à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, la capitale de la province du Nord Kivu, en grande partie tombés, selon les mots du porte-parole du gouvernement congolais. Ces corps sont ceux de personnes tuées dans les affrontements de la semaine dernière entre l'armée appuyée par ses alliés et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Alexis Guilleux, les volontaires de la Croix-Rouge et de la protection civile ont inhumé les corps au cimetière d'ITG.
Les corps sont emballés dans des sacs blancs, apportés par des camions de la Croix-Rouge. Ils sont descendus dans des tombes. L'odeur forte oblige les quelques curieux à se boucher le nez. Christian Mourara habite le quartier de Boujovou.
Tant de malheurs, tant de tristesses, comme par exemple, si vous pouvez voir les personnes qui viennent d'être pensées comme ces personnes vraiment. C'est tant de malheurs vraiment.
Ghislaine Kaliza, âgée de 38 ans, est sans nouvelles du corps de sa petite sœur.
Avec tout ce que l'on voit, tout ce qu'il se passe, tout cela nous angoisse. J'ai perdu ma petite sœur. Nous sommes allés la voir à l'hôpital Charité. On nous a dit que la Croix-Rouge a emporté son corps. C'est très triste. Nous pensons beaucoup à elle. Que Dieu l'accueille. Elle a été tuée au quartier Chirambo.
Quartier Chirambo.
Alain Mangolopa est le coordonnateur de la réponse humanitaire à la crise au Nord Kivu. Il explique qu'il est important d'inhumer les corps pour éviter le risque d'une épidémie.
Vous voyez les corps dans l'état dans lequel ils sont, et dans la communauté et dans les hôpitaux. Il était très crucial pour l'OMS de pouvoir apporter la contribution aux côtés des équipes de CICR pour que nous puissions faire ces enterrements dignes et sécurisés et réduire les risques de transmission des épidémies dans les hôpitaux et aussi dans la communauté. Au vu des risques de choléra que nous avions ici dans la crise humanitaire.
Selon l'ONU, au moins 700 morts ont été enregistrés à Goma lors des récents affrontements. Plusieurs centaines de corps attendent toujours d'être inhumés.
Alexis Guilleux. Et sur le plan diplomatique, le président sud-africain Cyril Ramaphosa affirme que son pays ne relâchera pas son soutien envers le peuple de la RDC afin qu'il obtienne la paix et la sécurité qu'il mérite à juste titre. Déclaration dans sa lettre hebdomadaire la semaine dernière. Le ton est monté entre Pretoria et Kigali sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, la SADC et l'EAC prévoit de tenir un sommet conjoint consacré à la situation dans l'est de la RDC vendredi et samedi. Il doit se tenir en Tanzanie, mais c'est la présidence kényane qui l'annonce. Selon William Ruto, les présidents congolais et rwandais auraient donné leur accord pour y participer. Le sommet des chefs d'État est annoncé le 8, précédé le vendredi 7 d'une réunion ministérielle. Objectif affiché, parvenir à un consensus sur une sortie de crise. Les derniers jours ont fait apparaître des divergences importantes entre les organisations sous-régionales dans leur approche de cette crise. La situation est donc toujours tendue dans l'est du pays. Des combats ont été signalés dans le sud Kivu ces derniers jours. Dans ce contexte, de nombreuses fausses informations circulent sur les réseaux sociaux, alimentant la panique et parfois l'espoir. Ces dernières heures, une infox affirme notamment à tort que l'armée angolaise aurait envoyé des renforts pour soutenir les forces congolaises. Explication Grégory Genevrier.
Cette rumeur, sur laquelle plusieurs auditeurs nous ont alertés, s'appuie sur une vidéo d'une minute et 46 secondes. On y voit des soldats angolais à l'entraînement, en train de défiler, de tirer et de sauter en parachute. Côté son, de voix féminine au ton journalistique affirme que la présidente de l'Assemblée nationale angolaise et son parlement ont voté à l'unanimité le déploiement d'un contingent de 400 à 500 soldats dans le Nord Kivu. Sauf que tout est faux, l'Angola n'a pas annoncé l'envoi de soldats en RDC ces dernières heures. Les images estampillées par l'état-major général des forces angolaises sont sorties de leur contexte. On les retrouve sur YouTube en 2021 et en 2023. Même constat pour la bande-son. Le premier extrait provient d'un reportage télé de la chaîne Africa 24, publié en mars 2023. Le deuxième extrait a lui aussi été diffusé à la même période sur Africa News. Quelqu'un a donc volontairement mélangé de vieilles images et de vieux extraits de journaux pour fabriquer cet infox devenu viral sur WhatsApp et TikTok.
Grégory Genevrier. Et en RDC toujours, 8 personnes reconnues coupables du meurtre d'un journaliste condamné à mort à Lubumbashi. Patrick Adonis Numbu, patron de la chaîne de télévision Pamoja Canal, personnalité bien connue des médias congolais, avait été retrouvé mort le 7 janvier dernier dans le quartier Gécamine de la capitale de la province du Haut-Katanga. Un assassinat particulièrement violent qui avait ému la communauté journalistique du pays. Dans cette affaire, 3 femmes ont aussi été condamnées à 2 ans de prison pour avoir caché les auteurs du crime. Cela fait 17 ans aujourd'hui que l'opposant tchadien Ibni Oumar Mahamat Saleh a disparu sans laisser de traces. C'était le 3 février 2008, lors d'une attaque de rebelles sur la capitale, N'Djamena. Selon les conclusions de l'enquête d'une commission mise en place en 2008, sur demande de la communauté internationale, Ibni Oumar Mahamat Saleh aurait été enlevé à son domicile par des forces de défense et de sécurité tchadiennes. Mais les autorités tchadiennes ne reconnaissent pas les conclusions de cette enquête. 17 ans plus tard, et alors que le pays sort de 3 ans de transition, Hicham Ibni Oumar, le fils de l'opposant disparu, n'espère rien de ce changement de pouvoir. Écoutez.
Une justice est censée être indépendante et des changements politiques ne devraient pas influer un résultat ou un travail judiciaire. Maintenant, on sait ce qu'il en est. Ici, au Tchad, on est arrivé vers un non-lieu. Le dossier n'a pas été rouvert depuis, malgré qu'il y ait des éléments nouveaux. Le parti même, fondé par mon père, a occupé le ministère de la Justice, mais ceux qui étaient là n'ont pas daigné rouvrir le dossier. Donc, je ne pense pas qu'un changement générationnel puisse changer les choses. Ça, la grande question, c'est est-ce qu'on va enfin arrêter avec l'impunité au Tchad? Ce n'est pas vraiment une question de personne ici, c'est une question de volonté de rendre la justice indépendante pour qu'elle puisse faire son travail correctement. Maintenant, dans cette affaire-là, il y a des implications du gouvernement français, et c'est pour cela d'ailleurs qu'on a pu déposer une plainte en France, et donc pour cela, il faudrait que toutes les parties prenantes soient impliquées et qu'on ait la vérité une fois pour toutes.
Mon propos recueilli par Victor Moria. Et puis au Burkina Faso, la ville de Djibo a été le théâtre d'une violente attaque hier dimanche. Ce sont des positions de l'armée qui ont été visées par des terroristes présumés. Bilan de nombreux morts et blessés. Selon plusieurs sources, ces attaques ont été revendiquées par le GNIM sans donner de bilan. Mais pour l'instant, aucune communication ni de l'armée ni du gouvernement. Les précisions d'Abdoulaye Diko.
L'attaque a débuté très tôt le matin, aux environs de 6 heures heure locale. Selon les témoins joints par RFI, les terroristes sont arrivés du côté nord-est de la ville et les tirs à l'arme lourde ont duré plus d'une heure. Plusieurs sources donnent le bilan d'une vingtaine de morts, des militaires et des volontaires pour la défense de la patrie. Plusieurs autres blessés, certains grièvement, et beaucoup de dégâts matériels. Toujours selon les sources jointes par RFI, ces militaires appartiennent au bataillon d'intervention rapide BIR 22. Dans la journée d'hier, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, les GENIM, a revendiqué la prise de 3 positions militaires dans 7 provinces du Soum, sans donner de bilan ni de détails sur les positions prises. Pour le moment, aucune réaction ni de l'armée burkinabé ni du gouvernement. Jeudi dernier, les terroristes avaient déjà attaqué des positions militaires dans cette ville de Djibo. Une attaque qui avait été repoussée selon plusieurs sources locales. Cette ville de Djibo, chef-lieu de la province du Soum, région du Sahel, est sous blocus du Génim depuis près de 3 ans.
Un récit de Abdoulaye Diko. Par ailleurs, on a appris de différentes sources locales une autre attaque terroriste dans le nord-ouest du pays, dans la province du Yatangas. Lundi à la mi-journée, un accrochage a eu lieu vers la commune de Eroma, au nord de Waiguya. Attaque terroriste dont on ne connaît pas pour le moment le bilan. De nouveaux éléments sur la mort de nos confrères Ghislaine Dupont et Claude Verlon, abattus peu après leur enlèvement à Kidal dans le nord du Mali le 2 novembre 2013. De nouveaux éléments révélés par le journaliste français Olivier Dubois dans son livre « Prisonniers du désert, 711 jours aux mains d'Al-Qaïda ». Olivier Dubois, qui a lui-même été otage d'Al-Qaïda pendant 2 ans. Il raconte sa captivité, il explique aussi avoir tenu, en poursuivant son travail de journaliste auprès de ses geôliers, qu'il a notamment interrogé sur le double crime de Kidal, témoignage qui est un espoir pour les familles de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon. Guillaume Thibault.
Si les familles de nos confrères, comme Olivier Dubois d'ailleurs, se questionnent sur la valeur à donner aux propos de Sedan Aguita, la volonté reste de faire progresser l'enquête. L'association des amis de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon a demandé une nouvelle déclassification de documents de l'armée française. C'est ce qu'explique la porte-parole de l'association, Daniel Gonneau.
Y a-t-il eu une interférence avec l'armée, avec les forces spéciales ? Tant que nous n'avons pas les documents qui justifieront de leurs actions réelles, en particulier le compte-rendu des forces spéciales de Kidal, nous ne pourrons que nous poser des questions.
Devant les médias, Olivier Dubois a toujours affirmé que Sedan Aguita, lors de sa rencontre avec lui la veille de sa libération, avait évoqué un survol du commando par l'armée française. L'avocate de l'association des amis de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, maître Marie Dosé, estime néanmoins que l'ex-otage a été moins clair devant le juge et qu'une nouvelle audition serait envisageable.
Il n'indique absolument pas que Sedan Aguita lui aurait parlé de ça. Il est tout à fait possible, en droit, de solliciter une nouvelle édition pour recueillir les observations du témoin. Je verrai, le moment venu, ce que mes clients souhaitent que je fasse. Nous verrons bien.
Sur les 4 membres du commando qui ont assassiné nos confrères, un seul serait encore en vie, un certain Amédou Agmohamedi. Interrogé par Olivier Dubois sur l'existence de cet homme, Sedan Aguita lui a répondu « Nous n'avons personne de ce nom chez nous ».
Guillaume Thibault. En Guinée, la candidature du général Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle se précise ce week-end lors d'un meeting dans la ville de Cancan en hommage au président de la transition. Les appels en faveur d'un maintien au pouvoir du chef de la junte se sont multipliés en présence de plusieurs membres du gouvernement. Dans un long discours, le porte-parole de la présidence a déclaré que la candidature du général Doumbouya est une évidence, même si le chef de l'État ne s'est pas officiellement exprimé sur la question. Alors Sidi Sané, ses appels à son maintien à la tête du pays interviennent alors que la transition se prolonge et qu'aucune date pour un retour à l'ordre constitutionnel n'a été fixée.
Samedi dernier, à Cancan, ville natale du général Doumbouya, se tenait une marche de l'unité et de la paix qui a rassemblé des milliers de personnes, dont plusieurs ministres réputés comme fervents partisans du président de transition, tels que Fana Souma à la communication, Moussa Moïse Silla à la culture ou encore Boris Ndakouyaté aux affaires étrangères. Dans son discours, le secrétaire général et porte-parole de la présidence, le général Amara Camara, a lancé à la foule, je cite, « qu'il est évident que la candidature de Mamadi Doumbouya est la seule alternative pour rassembler les Guinéens. Si votre souhait est sa candidature, vous êtes seul décideur, il vous écoutera. » Les soutiens pro-Doumbouya se renforcent alors qu'aucune date pour le référendum constitutionnel et pour le retour à l'ordre civil ne sont fixées. Dans son discours du nouvel an, le chef de l'État avait présenté 2025 comme crucial pour la fin de transition. 3 mois auparavant, devant l'OIF, c'est le ministre des Affaires étrangères qui affirmait que toutes les élections se tiendront en Guinée cette année. Mais la semaine dernière, le porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo annonçait que cela serait impossible pour des raisons logistiques.
Sidi Yonsané, le 20 janvier dernier, le nouveau président américain Donald Trump gelé pour 90 jours l'aide internationale américaine, entraînant immédiatement l'arrêt de certains programmes. Les conséquences sont déjà concrètes, tragiques, et les inquiétudes du monde humanitaire pour la suite sont plus vives que jamais. Les États-Unis, pour rappel, sont de loin les premiers bailleurs de l'humanitaire, de l'aide humanitaire et de l'aide au développement dans le monde. La pérennité de ces fonds et la survie même de l'agence d'aide américaine USAID sont menacées. Explication David Bachet.
Avec près de 65 milliards de dollars, les États-Unis sont en volume le premier pourvoyeur d'aide de la planète, selon les chiffres publiés par l'OCDE en 2024 pour l'année 2023. Loin devant les autres contributeurs, les financements américains sont donc cruciaux pour les pays bénéficiaires à travers le monde, notamment en Afrique subsaharienne, mais ils ne pèsent pas lourd sur le budget des États-Unis, puisqu'ils ne représentent que 0,24% du revenu national brut américain. Le gel des financements de l'agence américaine USAID a déjà obligé de nombreux programmes humanitaires ou de développement à cesser du jour au lendemain. D'autres ont été réduits. À titre d'exemple, l'ONG médicale Alima a reçu 5 ordres de suspension pour des projets en contexte de crise au Cameroun, au Tchad, en Haïti et au Mali. L'absence d'indications claires de la part de Washington suscite la panique parmi les acteurs de l'aide internationale sur le court terme pour trouver en urgence des fonds de substitution et sur le long terme. Dimanche, Elon Musk, chargé par Donald Trump de réduire les dépenses publiques, a qualifié USAID de criminel et affirmé qu'il était temps pour elle de mourir.
Et pour aller plus loin sur les conséquences de cette décision, nous allons maintenant écouter Jean-Baptiste Velu, professeur à l'Université Sorbonne-Nouvelle à Paris, spécialiste de la politique internationale américaine et cofondateur de l'Observatoire de la politique extérieure américaine. Il était l'invité d'Afrique Midi au micro de David Bâché.
Les conséquences sont dramatiques aux quatre coins du monde, que ce soit des programmes de déminage, le programme PEPFAR sur la lutte contre le sida, les programmes d'aide alimentaire, l'aide aux réfugiés, les programmes de lutte contre la désinformation en Russie, l'aide à la démocratie en Iran. Je pourrais vous citer une vingtaine d'exemples.
Et les pays africains sont en première ligne ?
Et les pays africains sont en première ligne, notamment les pays les plus dépendants de cette aide extérieure. Donc il est clair que ce retrait américain, même temporaire, va créer un vide qui bénéficiera à d'autres puissances.
Des exemptions ont déjà été annoncées sur l'aide alimentaire la plus urgente, sur les médicaments essentiels à la survie. Ces exemptions, est-ce qu'elles permettent de limiter la casse ?
Je dirais oui et non, parce que l'administration Trump a coupé les vivres dans beaucoup de cas et n'a pas toujours regardé ce qu'il y avait au bout de ces différents programmes. Donc on voit déjà des programmes d'aide alimentaire, de distribution qui sont coupés. Donc au-delà de ces exemptions, je ne crois pas que l'administration Trump ait un regard très précis de ce qui est recouvert par ces fonds dans différents pays.
Les ONG se plaignent également du manque de clarification de la part de l'agence d'aide américaine.
Absolument, c'est très radical, je dirais, et on voit la même procédure ou la même méthode d'action sur le plan intérieur avec une mesure précipitée pour couper les fonds fédéraux vers les États, qui a été retoquée par une cour fédérale, mais d'un point de vue international, ce n'est pas le cas.
Elon Musk, le collaborateur du président américain qui s'est vu confier une nouvelle agence chargée de réduire les dépenses publiques des États-Unis, a presque annoncé pendant le week-end que l'agence d'aide américaine USAID pourrait être tout simplement fermée. C'est une option envisageable réellement ?
Alors fermée, je ne sais pas, mais sûrement absorbée par le département d'État. Oui, ça fait partie des débats qui sont sur la table. Quand on sait qu'il décrit cette USAID comme une organisation criminelle, on comprend mieux la panique des différents fonctionnaires, mais aussi des ONG qui travaillent avec cette agence.
Jean-Baptiste Velu, professeur à l'Université Sorbonne-Nouvelle à Paris et spécialiste de la politique internationale américaine, interrogé par David Bâché. À Djibouti, les autorités ont mené une attaque de drones et annoncent avoir tué 8 terroristes. Selon un communiqué du ministère de la Défense djiboutien, cette opération aérienne a eu lieu à Adorta, dans le sud-ouest. Le ministère reconnaît que des victimes civiles ont été touchées par ces frappes. Le récit de Gaël Lalex.
C'est à 6 km de la frontière éthiopienne que les drones djiboutiens ont frappé. Selon le communiqué, le site d'Adorta a été identifié comme une base logistique et opérationnelle utilisée par des éléments terroristes. D'après le ministère de la Défense, ils l'utilisaient pour s'infiltrer dans le pays. Les terroristes menaçaient les infrastructures du lac Assal, point le plus bas d'Afrique. Ce lac est riche en sel et dispose d'un important potentiel géothermique. Enfin, ils enlevaient les enseignants des écoles rurales de la région. Le communiqué n'identifie pas néanmoins le groupe qui était visé. Alexis Mohamed, conseiller du président, a confirmé à l'AFP qu'il s'agit du FRUD, le Front pour la restauration de l'unité et de la démocratie, une rébellion qui prétend défendre les intérêts de la communauté Afar minoritaire à Djibouti. Cette opération a fait des dommages collatéraux parmi des civils djiboutiens, reconnaît le ministère de la Défense, qui annonce l'ouverture d'une enquête. La Ligue djiboutienne des droits de l'homme estime que 14 personnes ont été tuées et dénonce un crime de guerre. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
La Nigériane Tems est devenue la nuit dernière à Los Angeles la nouvelle reine de l'afrobeat nigérian. Elle a remporté le Grammy au titre de la meilleure performance africaine de l'année pour le titre Love Me JJ devant des poids lourds comme Wizkid ou Burna Boy. Une consécration pour Tems dont c'est le deuxième Grammy, Olivier Roger. I need your loving,
so fresh, so clean. Wow, dear God, thank you so much for putting me on this stage and bringing me this team.
Elle a remercié Dieu, elle a aussi remercié sa mère, présente avec elle sur scène, et enfin son équipe. Comme à l'habitude, Tems a fait les choses avec professionnalisme et beaucoup de sensibilité, deux qualités qu'elle distille dans la conception de ses chansons. Beaucoup sont composées avec le beatmaker italo-ghanéen Guilty Beats. C'est notamment le cas pour le titre qui lui a valu cette nuit la victoire, Love Me JJ, chanson afro-soul des années 90, remise au goût du jour et qui cumule rien que sur YouTube plus de 20 millions de vues et d'écoutes. De son vrai nom, Temilade Openi, Tems avait déjà remporté un Grammy en 2023 pour un titre de rap mélodique en compagnie des rappeurs Drake et Future. Cette fois-ci, son talent n'a pas eu besoin de collaborateurs pour s'exprimer. Tems possède une voix et surtout un sens mélodique peu commun. Sa victoire est aussi le triomphe d'un genre musical qui a moins de 15 ans d'existence, l'afrobeats. Cette pop mondialisée au rythme africain, simple et consensuel, l'afrobeats est devenu un pilier du showbiz planétaire.
Olivier Roger. Maurice commémore en ce moment un double événement lié à l'esclavage. Avant-hier, c'était le 190e anniversaire de l'abolition de la traite négrière. Et aujourd'hui, la conférence de l'UNESCO sur les routes des personnes mises en esclavage. Un projet lancé il y a 30 ans. L'occasion de redécouvrir Jean-Baptiste Lisley Geoffroy, premier savant métis des Mascareignes, membre de la première société savante de Maurice. Il est nommé en 1786 membre correspondant de l'Académie royale des sciences de Paris, ingénieur, géographe et esprit éclectique. Il a laissé son empreinte à Madagascar, aux Seychelles, à La Réunion et à Maurice. Reportage à Port-Louis, Abdoulaye Rally.
Le métis Jean-Baptiste Lisley Geoffroy a participé aux grands travaux de génie civil et militaire à Port-Louis au temps du système esclavagiste colonial. Longtemps oublié, ce premier savant de sang mêlé des Mascareignes renaît aujourd'hui à travers Grand Noir, un ouvrage signé Didier Souben.
Le livre démontre comment, à une époque de notre histoire, il y a eu l'esclavage, il y a eu un code noir qui interdisait le mélange entre blanc et noir, et que dans cette même époque, il y a eu un petit jeune, le premier métis qui est devenu le savant de la zone indienne-océanique.
Né en 1755 à La Réunion, Jean-Baptiste Lisley Geoffroy est le fils d'un blanc et de l'esclave Niama. Devenu ingénieur géographe, il a réalisé les premières cartes précises des Mascareignes. L'une d'elles est exposée au Blue Penny Museum à Port-Louis, un travail qui fascine encore aujourd'hui Emmanuel Richon, conservateur du musée.
C'est quand même à lui qu'on doit les premières cartes de Madagascar et des Seychelles, et puis les premières cartes par exemple avec La Réunion et Maurice à la fois. Ah, c'est lui qui a fait les premières cartes terrestres et maritimes de toute cette région, quoi.
Son expertise impressionne à tel point le milieu scientifique qu'il est nommé membre correspondant de l'Académie royale des sciences en France. En 1810, lors de la conquête britannique de Maurice, Lisley Geoffroy est commandant en chef du génie. Ses qualités sont tout de suite reconnues par l'administration britannique.
C'est lui qui a remis les clés, qui a fait le travail de passation entre l'administration française et l'administration anglaise. Il était quand même un peu diplomate, quoi, pour servir de lien entre les deux. Et d'ailleurs, il a fait les deux premières cartes anglaises. Ça s'appelle encore Île-de-France dessus.
Comment Jean-Baptiste Lisley Geoffroy s'est-il fait connaître dans la région? Tout commence à La Réunion, où le naturaliste français Philibert Commerson le découvre lors d'un voyage dans les Mascareignes, selon le président de la Société Royale des Arts et des Sciences de l'île Maurice, Pierre Bessac.
C'était le premier contact avec Lisley Geoffroy.
certainement que Commer sont revenus à Maurice, en a parlé, et il a donc fait venir. Et donc, Lisée Geffroy s'est implanté à Maurice et resté à Maurice. Comme ingénieur, il avait ses bureaux de la marine ici à Port-Louis.
Jean-Baptiste Lisée Geffroy meurt à Port-Louis en 1836, à 81 ans, à l'annonce de son décès. L'Académie des sciences en France saluait un homme de brillante intelligence, chercheur de valeur et érudit. Abdullah Erali, Port-Louis et RFI.
22h54 à Port-Louis, 18h54, temps universel. L'info continue sur Radio France Internationale avec dans un instant le journal de 19h, temps universel, suivi d'Accent d'Europe, où on parle défense aujourd'hui à Bruxelles avec un sommet entre les dirigeants européens, le Premier ministre britannique et le secrétaire général de l'OTAN. Au menu, les demandes du président américain Donald Trump qui souhaite que plus de budget soit affecté à la défense, et en arrière-plan, des menaces que fait peser la Russie. Au nord de l'Europe, la mer Baltique est le siège d'une guerre hybride où des câbles de télécommunications sous-marins sont sectionnés ou endommagés. Écoutez ce qu'on disait le mois dernier, Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN.
Ces installations sont cruciales pour le transport de l'électricité ou du gaz. 95% du trafic Internet est assuré par des câbles sous-marins. Plus d'un million de kilomètres de câbles assurent chaque jour 10 000 milliards de dollars de transactions commerciales.
Voilà un reportage à retrouver dans Accent d'Europe tout à l'heure à 19h10, temps universel, ou en podcast sur le site de RFI et l'application Pure Radio. Et puis à 19h40, temps universel, le grand reportage. Un grand reportage qui nous emmène en Syrie, où après des décennies de dictature, 13 années de guerre et la chute du régime de Bachar el-Assad, en moins d'une semaine, les combattants d'Ayat Tahrir al-Sham ont pris le pouvoir à Damas le 8 décembre dernier. Il vient d'être nommé président par intérim. Il multiplie les initiatives pour rétablir le dialogue au sein de la société syrienne. Un défi de taille, tant les communautés druzes, alaouites, kurdes, sunnites et factions armées sont nombreuses.
En tant qu'alaouite, nous avons peur. Croyez-moi, nous sommes en faveur de la liberté, d'Ayat Tahrir al-Sham, de la protection des villages et du pays. Mais nous avons surtout peur de certains groupes. Ils créent des problèmes, alors que les HTS sont très respectueux. Ils agissent conformément à la religion islamique. Oui, il faut le dire, nous avons peur des jours à venir.
Voilà, Syrie, après la chute de Bachar al-Assad, la difficile unification du pays, un grand reportage de Manon Chaplin. C'est à 19h40, temps universel. À noter aussi, à 20h10, temps universel, Couleur tropicale, avec ce soir, l'artiste malien Sidiki Diabaté. Il sera en concert à Paris, La Défense Arena, le 8 février prochain. Son dernier album, Coral Over, sorti le 22 novembre 2024, est un mélange de sonorités urbaines et africaines. On écoute un extrait du titre. Mon combat.
Nediaye o, c'est toi mon combat. Tu es mon unique choix, bébé, mon baby pour moi. Abiseka ke ikumanuye, mais c'est pas mon problème. C'est toi qu'on me guère choisi, c'est toi mon bon pain. On a vécu des moments de bonheur et des moments de galère, mais on est toujours là, bébé, rien peut nous séparer. Change rien, c'est que de l'amour, nous baignons, on fait qu'à pas n'a pas qu'il y a un compte.
wajahili ya kunde ukofe kuma kuma nukunde teri musote zonga kuma kunde moi j'aime mon père c'est quoi ton problème.
Le Malien Sidiki Diabaté sur RFI, invité de couleur tropicale à 20h10 temps universel. Ainsi s'achève cette première édition d'Afrique Soir. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur la radio du monde avec à suivre dans un court instant un nouveau journal largement consacré à l'actualité dans le reste du monde.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
prendre soin de sa santé quand on est en situation de handicap.
Mercredi,
la septicémie, une infection à traiter en urgence absolue.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp. L'actualité autrement, l'information quand vous voulez.